à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Ce soir, un ancien président ne devrait pas dire ça. Il n'est jamais meilleur, dit-on, que dans cet exercice, celui du tonton flingueur. François Hollande a encore frappé ces derniers jours à l'occasion de la tournée promotionnelle de la sortie en poche de ses leçons du pouvoir. Des leçons qu'il prodigue à Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat. Dernière pique en date, à vouloir tout bousculer, lui a-t-il dit, tout s'est arrêté. Or, ces propos sont tirés d'une interview au journal Le Parisien, lequel journal a recensé les petites phrases assassines prononcées par l'ancien président à propos de la politique menée par son successeur. Et la liste est longue. François Hollande éprouverait de l'amertume à l'égard de celui qui fut son protégé, qu'il n'agirait sans doute pas autrement. Envisage-t-il de revenir en politique et de le faire par la grande porte, à savoir celle de l'Élysée ? François Hollande ne serait pas le premier sous la 5e à tenter ce pari. Valéry Giscard d'Estaing n'a pensé qu'à ça pendant des années. Nicolas Sarkozy était persuadé qu'il serait l'homme providentiel de la droite en 2017. À chaque fois, des échecs. Alors, ni vraiment de retour, ni vraiment parti, les anciens chefs de l'État peinent à trouver leur place une fois leur mandat achevé. Doivent-ils intervenir dans le débat public au regard de leur expérience ou faire preuve de discrétion pour ne pas gêner leur successeur ? Un ancien président ne devrait pas dire ça. C'est le thème de la discussion de ce soir en compagnie de nos trois invités, deux des membres de notre club. Géraldine Mulman, bonsoir.
Bonsoir Hervé Gardette.
Vous êtes professeur de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris 2. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
On vous retrouve tous les samedis à 12h45 sur France Culture pour la suite dans les idées. Et puis vous dirigez le site AOC, Analyse Opinion Critique. Et notre invité cette semaine, c'est Patrice Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique, co-auteur avec Jacques Santamaria, je vais en citer seulement deux, hein, des jours d'après, publié à l'Observatoire en 2017, qui raconte comment ceux qui ont exercé le pouvoir vivent le fait de le quitter. Puis également, l'Élysée, Histoire, Secret, Mystère, c'est une réédition, c'est en poche, ça date de l'an dernier et c'est publié aux éditions Pocket. Par ailleurs, vous avez exercé un certain nombre de postes de direction dans l'audiovisuel public, à France Télévisions.
Et Radio France.
Et à Radio France.
J'ai adoré Radio France.
C'est vrai ?
Oui.
Bon, bah, je suis ravi. Alors, du coup, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez accepté tout de suite de revenir. Je ne sais pas si, justement, alors, hier soir, c'est une première question qui n'a pas un rapport direct avec nos discussions de ce soir, mais vous savez que et France Inter et France 2 diffusaient le débat des têtes de liste aux européennes. Je ne sais pas si vous l'avez regardé.
Mais j'ai regardé et ma femme, qui est journaliste politique, Nathalie Saint-Cric, participait à l'émission. Donc, j'ai regardé pour de nombreuses raisons.
Vous avez d'ailleurs...
Je me suis accroché au bout d'une heure. Hein. J'ai eu du mal à rester jusqu'au bout.
Je voulais justement savoir ce que vous pensiez, vous, de ce type d'émission, de ce type de débat. Vous qui avez animé une émission qui s'appelait Le Grand Débat en 1980, qui était une émission politique.
Oui. Et mon frère Alain a animé les grandes émissions politiques, Armes égales, Cartes sur table, avec des émissions mythiques avec Mitterrand, Marchais.
Et alors un débat avec une quinzaine de débatteurs.
Ben, je pense que c'est l'inverse de ce que devrait proposer la télévision et que malheureusement, dans les circonstances actuelles, c'est très difficile. Là, je ne prends pas la défense des responsables de France Télévisions. C'est extrêmement difficile d'organiser ce qui serait, je pense, souhaitable, c'est-à-dire des duels, des grands duels télévisés comme on en a connu, tout simplement parce que les candidats potentiels à ces duels n'ont pas envie de les faire. Mais moi, personnellement, j'adorerais avoir Nathalie Loiseau face... à Manon Aubry ou à Jean-Luc Mélenchon. J'adorerais avoir Bellamy face à Benoît Hamon en tête à tête pendant une heure sur un format beaucoup plus court. Mais là, c'est vrai que 12 personnes sur une émission qui doit durer 2 heures, c'est vraiment extrêmement difficile. Quoi.
Voilà, c'est lié aux contraintes du pluralisme qui sont imposées par le CSA. C'est d'ailleurs.
Juste par ailleurs, j'ai quand même été extrêmement étonné. J'ai beaucoup de respect pour la justice française sous toutes ses formes, quelle que soit la nature des tribunaux. J'ai quand même été extrêmement étonné que, hors campagne officielle qui démarre dans une dizaine de jours, le tribunal administratif impose, dans un premier temps, avant que ça soit modifié par le Conseil d'État, impose la présence de candidats. J'ai vraiment été extrêmement étonné.
On reviendra justement d'ailleurs sur cette question. Lundi, dans du grain à moudre, on se posera la question de savoir qui et comment imposer le pluralisme aux médias en matière politique. Alors, il y avait un autre face-à-face qui avait lieu hier après-midi entre Emmanuel Macron et des élus corses. C'est peut-être celui-là que François Hollande a privilégié s'il était un téléspectateur de l'actualité politique hier plutôt que l'actualité des européennes, puisque manifestement, depuis quelques mois, s'il y a un personnage qui obsède l'ancien chef de l'État, c'est bien Emmanuel Macron.
Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez ?
Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches.
Comment accepter que ce soit les titulaires des gros patrimoines qui soient aujourd'hui ceux qui ont la redistribution que nous avons tous souhaité ?
Il n'y a rien de pire que pour un citoyen de se faire donner la leçon par ceux qui ne vivent pas dans les mêmes conditions. En disant, ben, quand même, vous êtes un citoyen, vous êtes un responsable, vous êtes conscient du climat. Vous pouvez payer plus cher votre carburant, vous rendrez un service. Les leçons de morale ne peuvent pas être entendues.
Mais c'est important que, dans un débat, le président s'exprime et puis qu'il écoute les Français.
À force de critiquer les partis traditionnels, on a inventé des formes assez archaïques d'organisation politique, c'est-à-dire d'inorganisation politique, où le chef qui se prend pour la République décide de tout et presque sans le rappel de ce que des citoyens ont pu investir dans une organisation.
Voilà, entendre ces quelques extraits, il y en a beaucoup d'autres, hein, d'interventions de François Hollande dans lesquelles, sans citer Emmanuel Macron, évidemment, il est fait référence. On pourrait se dire que c'est peut-être lui le principal opposant aujourd'hui à Emmanuel Macron. En tout cas, est-ce que sur le fond, après on ira sur la question de la forme, est-ce que sur le fond, vous considérez les uns et les autres que les critiques qu'il émet à l'égard du chef de l'État actuel sont des critiques pertinentes, Sylvain Bourmeau?
Quand il dit c'est pas vrai que ce soit le président des riches, mais c'est le président très riche, oui, enfin, je partage cette opinion émise par François Hollande en l'occurrence. Moi, je dois dire que on reviendra sur la question de quel rôle peuvent jouer les anciens présidents de la République, j'imagine, dans le cadre de l'émission. Mais ce qui me frappe, je suis pas choqué par le fait qu'un ancien président de la République participe au débat, qu'il commente. En plus, on sait que François Hollande a toujours aimé être dans cette position de commentateur. Je dirais qu'il y a même un plaisir de citoyen, pour ma part, à l'entendre parler, alors même que on se demandait pourquoi, pendant tous ces mois durant lesquels Macron était en train de préparer sa campagne, François Hollande ne disait rien. On se demande d'ailleurs encore aujourd'hui à partir de quand il a compris qu'il allait être trahi par Macron, à partir de quand il s'est trouvé dans cette position où il ne pouvait plus être candidat, qu'est-ce qui s'est passé, ça reste très mystérieux encore tout ça. Donc moi je suis marqué et traumatisé presque par ce silence de François Hollande pendant ces mois qui ont précédé l'élection présidentielle, donc l'entendre parler aujourd'hui, à la fois je le comprends et je dirais que je le prends plutôt bien.
Géraldine Mulman.
Je pense que les présidents de la République ont un droit à la parole exactement égal à tous les citoyens. C'est-à-dire que je ne fais aucune différence ni dans un sens ni dans l'autre. Ils n'ont pas de privilèges et ils n'ont pas de handicap sous prétexte qu'ils sont anciens présidents de la République. Ils sont revenus à une citoyenneté parfaitement normale. Ils s'expriment comme ils veulent.
Après, si ce n'est qu'ils n'ont pas l'accès à la parole identique à ceux de n'importe quel citoyen quand même.
Enfin, comme ceux qui font partie, disons, du personnel politique qu'on interviewe, bien sûr. Mais a priori, moi, je suis pour que tous les citoyens aient le même droit à la parole. Après, c'est sûr qu'on ne tend pas un micro de la même façon pour chacun. Donc là-dessus, je ne fais pas une distinction de statut. Maintenant, comme tout le monde, ils disent des choses justes et des choses moins justes. Et puis surtout, ils se rendent pas toujours bien compte de l'effet que ça fait. C'est-à-dire qu'évidemment, il a un sens de la répartie, François Hollande, qui fait tout son talent. Il a le sens des formules, il est cinglant, il en croque, là. Enfin, franchement, on sent sa jouissance. Et puis, il a les bons mots, là, pour dire ce qui ne va pas avec Emmanuel Macron. Mais enfin, je suis absolument certaine que ça ne fait en rien oublier, premièrement, le fait que Emmanuel Macron ait sa chose. C'est lui qui l'a mis à Bercy. Et je pense que la politique de François Hollande était surtout au bout de 2-3 ans celle d'Emmanuel Macron. Enfin, il y a eu quelques différences, bien sûr. Il n'a pas enlevé l'ISF, on peut discuter, etc. Mais il ne peut pas donner des leçons de social-démocratie aujourd'hui, François Hollande, comme une alternative évidente, manifeste à ce que fait Emmanuel Macron, alors que il y a aussi des continuités, il y a des... Il ne représente pas une alternance au vu de ce qu'il a fait, clair et net.
C'est peut-être d'ailleurs une amertume qui s'explique par le fait que, comme vous le dites, c'est sa chose, enfin, sans faire de la psychanalyse, ce qui n'est pas du tout mon métier, mais peut-être qu'on peut aussi y voir quelque chose de cet ordre-là. Patrice Duhamel, vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend, ces interventions de plus en plus fréquentes de François Hollande, pas seulement pour parler des questions d'ordre public, il le fait aussi, mais aussi pour adresser des petites piques à Emmanuel Macron. C'est surprenant, c'est relativement inédit dans l'histoire des anciens présidents de la République par rapport à ceux qui occupent l'Élysée.
C'est pas du tout inédit, simplement il est revenu assez vite, on s'en souvient plus, mais dès l'été ou au début de l'automne 2017, il est revenu en général il y a au moins 6 mois. Alors Sarkozy s'était manifesté dès le mois d'août, je crois, sur un grand sujet de politique étrangère, je crois que c'était la Syrie. Lorsque François Hollande avait été élu, mais Giscard, par exemple, qui ensuite a été très présent, omniprésent dans la vie politique, candidat à les élections cantonales, etc., etc., il avait attendu une petite année avant de revenir.
François Hollande, d'après la recension que fait le journal Le Parisien de ses interventions, oui, date du 22 août 2017, effectivement. Voilà. Les sacrifices inutiles, c'est-à-dire première salve contre Emmanuel Macron, c'était notamment lié à l'augmentation de la CSG, je crois, pour les retraités. Patrice Duhamel.
Oui, mais pour enchaîner sur la question qui a été posée tout à l'heure de ce que l'on sait, je ne suis pas dans le secret des lieux et je ne peux pas répondre catégoriquement à votre question, mais de ce que l'on sait, jusqu'au tout dernier moment, avant la candidature d'Emmanuel Macron, qui était, je crois, de novembre 2016, mais quelques jours avant encore, il ne croyait pas à cette candidature.
Quel flair politique! Quel grand flair politique, c'est à son honneur, apparemment.
Il est soi-disant un grand observateur.
Il était alerté par tous ses amis qui ont raconté, qui sont venus le voir en lui disant, mais ses amis fidèles qui sont avec lui aujourd'hui, Michel Sapin, venait le voir en lui disant, mais il se prépare, il a lancé son mouvement, tu le sais, mais il va se présenter. Mais non, il se présentera pas. Je te dis qu'il va se présenter. Et à partir du moment où Macron était candidat, c'est vrai qu'il lui restait plus de place. Et c'est un des cas particuliers pour Hollande. C'est que donc il y a 3 anciens présidents qui ont essayé de se représenter et qui soit se sont représentés, ont été de nouveau battus comme Sarkozy en primaire. Lui, c'est particulier, c'est encore plus dur pour lui d'une certaine manière, c'est qu'il n'a pas pu se présenter et c'est une forme d'humiliation politique. Moi, je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps pour un documentaire sur l'histoire de la Ve République. Il a extraordinairement mal vécu ce 1er décembre, l'intervention de 20h au 1er décembre 2016. Et je crois qu'il l'a très vite regretté.
Mais oui, à cause de l'affaire Fillon, bien évidemment. Voilà. Parce que s'il s'était présenté... Bon, on suppose, c'est ce qui était déclaré à l'époque, Emmanuel Macron ne serait pas allé à la primaire socialiste. Évidemment, la question se posait de savoir si François Hollande aurait gagné cette primaire socialiste. Bon, là, il y avait un sujet. Mais mettons que ça se passe pas trop mal. Hein. Bon, il y avait l'affaire Fillon. Et l'affaire Fillon, elle a été un tsunami dans la campagne. Et c'est vraiment à cela aussi qu'Emmanuel Macron doit en grande partie son élection. Et
donc, y voyez l'expression de regret.
Mais bien sûr. C'est-à-dire que s'il avait su tout cela, ça changeait tellement la donne politique. Il eut une nouvelle chance. Ce serait ouverte à lui. Je ne dis pas qu'il aurait été élu. La politique, ça ne marche pas aussi simplement que ça, mais enfin, ça ouvrait quand même des perspectives.
Ce sont quand même des interventions qui, à force d'être répétées, ont suscité aussi des réactions assez négatives, que ce soit à droite comme à gauche, de gens disant, comme par exemple Yannick Jadot, il est quand même gonflé. C'est-à-dire, si on regarde le bilan de ce qu'a été le quinquennat François Hollande, il aurait peut-être quand même plutôt intérêt à rester discret. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là, Sylvain Bourbon? Patrice Duhamel.
C'est ce que commençait à dire Géraldine Mühlmann tout à l'heure. Je partage totalement ce jugement. Et c'est très troublant de voir que François Hollande, là encore, a peu de discernement. Il lui a fallu vraiment du temps pour comprendre qu'Emmanuel Macron serait candidat, alors que tout le pays l'avait compris depuis longtemps. Et que Patrice Duhamel parlait des amis, mais des amis de François Hollande, très proches, ont fabriqué la candidature d'Emmanuel Macron. Je pense à Jean-Pierre Mignard, par exemple. Donc, c'est quand même très étrange. Et là, aujourd'hui, François Hollande ne semble toujours pas avoir compris la façon dont sa politique a été perçue par bon nombre de ses électeurs, de ceux qui l'ont élu président de la République.
Il suffit de constater ce qui s'est passé, par exemple, ses commentaires à propos des Gilets jaunes. Là où un Jean-Marc Ayrault a rebondi sur cette actualité pour regretter de ne pas être parvenu, et Dieu sait qu'il a essayé de le faire, à mener cette grande réforme fiscale, là où il disait, mais on savait tout ça, et en fond, il aurait fallu, peut-être ça aurait pas suffi, mais enfin, il aurait fallu enclencher, et Ayrault a essayé, il a essayé comme Premier ministre, puis il a essayé après comme député, en déposant avec Pierre-Alain Muet un amendement, etc., qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Bref, il a mené ce combat politique et il en a tiré les leçons quand il s'agit d'analyser la situation des Gilets jaunes. François Hollande, qui est soi-disant un grand commentateur politique, est incapable de se comprendre ce qui se passe en France avec le mouvement des Gilets jaunes et de rapporter ce mouvement à sa propre responsabilité de président de la République. Il ne comprend qu'une partie qui, effectivement, est liée à Emmanuel Macron, mais il y a aussi la partie qui dépend et découle directement de la politique qu'il a menée lui-même.
Patrice Duhamel, comment est-ce que vous expliquez ce manque de discernement, si tant est que vous considériez que c'est un manque de discernement ?
Je ne sais pas s'il y a un manque de discernement, mais si on globalise avec les anciens présidents, il y a une extraordinaire frustration quand ils sont battus, alors, et pour Hollande quand il ne peut pas être candidat. Il y a une injustice absolue de voir, au début, il y a toujours une espèce d'état de grâce, même s'il est de plus en plus court en France, avec le quinquennat, etc. Mais enfin, de voir que le successeur bénéficie de sondages, d'opinions très favorables, etc., etc. Et il y a une forme de déni. Mais moi, j'ai une analyse, je les ai plus ou moins bien connus, les présidents, pardon, compte tenu de mon âge, depuis Pompidou. Vous n'êtes pas le même homme. Vous n'êtes pas le même homme sur la scène politique à partir du jour où, en fin d'après-midi, le jour de l'investiture, on vous explique comment vous déclenchez le feu nucléaire. Vous avez été élu au suffrage universel. 10 jours après, vous arrivez à l'Élysée, la garde républicaine, la tombe du soldat inconnu, etc., etc., etc. Et vous arrivez et on vous briefe pendant une heure. On vous explique comment vous, tout seul, Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Monsieur Giscard d'Estaing, Monsieur Macron, etc. Non, c'est pas vous qui appuyez sur le bouton, mais comment vous donnez l'ordre? Alors, ils descendent au PC Jupiter, dans le sous-sol de l'Élysée. Ils ont tous les chefs militaires qui sont là. Tous l'ont dit publiquement, ou moi, un certain nombre me l'ont raconté. Mais ils changent en 30 secondes quand ils comprennent qu'il y a cette responsabilité-là, qui est le symbole de ce que est le président sous la Ve République. Hein. C'est pas le seul fait du feu nucléaire. Et vous n'êtes plus le même homme sur la scène politique.
Vous considérez que vous avez quitté l'Élysée, Patrice Duhamel.
Non, mais vous considérez toujours que votre parole politique dépasse celle des autres, que vous êtes plus légitime que d'autres à vous exprimer, que vous avez l'expérience qui fait que vous pouvez, etc. Alors, juste sur Hollande, pour terminer, il y a un petit élément tactique, et c'est un très bon tacticien. Il a quand même réussi à être élu président de la République. Il y a un petit élément tactique, c'est qu'il considère que dans son camp, il y a un espace pour lui.
Sarkozy pense exactement la même chose de
Sarkozy
la droite.
Sarkozy pense la même chose.
Giscard d'Estaing a pensé la même chose.
Ça a été un des problèmes de Giscard. C'est que dans les 30 secondes, après ça, le soir où il a été battu à 20h30, le patron de la droite, c'était Chirac. Là, où est le patron de la social-démocratie aujourd'hui ?
Où ? Et où est le patron de la droite aujourd'hui ?
Mais cela dit, je reviens sur ce que vous avez dit au début, Géraldine Mühlmann, en disant oui, les anciens chefs de l'État ont le droit, comme n'importe quel citoyen, de s'exprimer, ni plus ni moins. Est-ce qu'on peut pas quand même comprendre que eux considèrent que si un petit peu plus, c'est-à-dire ils ont quand même cette légitimité, ils ont été aux affaires et ils ont dirigé le pays, ça ne donne pas le même poids quand on a été président de la République, quand on a été député ou simple ministre. Et c'est peut-être aussi une difficulté à se positionner quand on a exercé ses fonctions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire après, finalement. C'est aussi ça la question qui se pose.
Vous savez bien que la parole du président, ex-président de la République, elle est double. D'une part, c'est une parole de l'expérience. Donc là, vous avez raison. C'est intéressant. Ils ont un point de vue, etc. Même si, quand même, ce que vient de dire Patrice Duhamel est affligeant. Les types, ils sortent et à vie, ils ont appris comment dégommer le monde par l'arme nucléaire et ils n'en bougent plus, quoi. Non, franchement, excusez-moi, mais c'est consternant. Ce que vous venez de raconter, c'est consternant.
C'est-à-dire, la réalité.
Même quand c'est fini, ils y sont encore.
Enfin, mais parce que vous n'avez pas vécu cette expérience.
Très bien. Je suis ravie de ne pas devenir mégalo jusqu'à la fin de mes jours. C'est terrifiant et je suis convaincue qu'on aura un jour des grands hommes ou des grandes femmes qui ne deviendront pas barjots au point que vous venez de dire, Patrice Duhamel, une fois qu'on n'est plus élu, on n'est plus président, on se calme, on est normal. En plus, de la part du président dit normal, c'est encore plus pathétique. Bon, fin de la parenthèse. Donc il y a une première chose, c'est qu'on les écoute pour leur expérience en mettant à part cet aspect mégalo-psychologique que vous venez de souligner. Mais deuxièmement, évidemment, que ceux qui parlent aujourd'hui, en particulier Nicolas Sarkozy et François Hollande, visent le pouvoir. C'est-à-dire que la parole, elle est double. Ils ne parlent pas du passé et de leur expérience avec un point de vue de strict commentateur. Ils ont envie du pouvoir. On vient de parler longuement de François Hollande. Permettez-moi de dire un mot de Nicolas Sarkozy, qui, alors que la droite européenne est en train de condamner M. Orban, qui dirige la Hongrie avec un état de droit extrêmement douteux, a eu cette formule-là publique en disant « Ah, il a fait quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Il s'est fait réélire 3 fois. » Mais c'est génial comme sortie de Nicolas Sarkozy, ça dit tout, quoi. C'est-à-dire, il l'admire pour un certain nombre de choses, donc il n'a pas tellement développé, mais surtout pour s'être fait réélire 3 fois. Bon, voilà, c'est aussi pour ça qu'on les écoute et c'est pour ça qu'ils parlent.
Ce ne sont pas de simples commentateurs qui pourraient délivrer une forme d'analyse un petit peu distanciée, être des arbitres comme à une époque, par exemple, on allait voir l'ancien président du Conseil, Pinet, hein, qui était vraiment celui qui est une sorte d'oracle que les politiques devaient consulter. Les anciens chefs de l'État, en tout cas, on va dire les deux derniers, Sylvain Bourmeau, Nicolas Sarkozy et François Hollande, n'ont pas renoncé à l'idée qu'ils pourraient à nouveau exercer le pouvoir.
Et c'est ça qui pose effectivement tout le problème. La question n'est pas de ce qu'ils peuvent dire, au fond. La question est que ce sont des acteurs politiques actifs. Ce sont des gens qui imaginent effectivement redevenir des présidents, redevenir en tout cas au moins des candidats, qui pour certains d'entre eux, Nicolas Sarkozy, ont essayé. Ça va pas. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui pose un vrai problème. Moi, encore une fois, il faut faire la part des choses entre la prise de parole et puis ce statut de président zombie ces spectres présidentiels qui pourrissent au fond la vie politique, qui empêchent des partis et des camps de se reconstruire parce qu'ils pèsent comme des hypothèques du passé sur l'avenir de ces formations politiques. On a vu à quel point la droite a payé ça, ce comportement de la part de Nicolas Sarkozy.
Et vous pourriez ajouter, oui, dans le paysage, le fait qu'ils siègent, en tout cas,
oui,
sans doute pas pour très longtemps,
ils ont le droit.
Au Conseil constitutionnel.
Ils ont le droit, ils siègent,
non, mais
pas forcément.
Ça veut dire qu'ils sont à la fois acteurs politiques et arbitres au,
oui,
Conseil constitutionnel.
Mais François Hollande
ça
a décidé,
lesquels, hein,
pour François Hollande a décidé de ne pas siéger,
ils
justement,
pas tous,
pour s'autoriser des prises, voilà, de parole.
Normalement, ils ne parlent pas quand ils sont au Conseil, mais Valéry Giscard d'Estaing a inventé une jurisprudence tout à fait personnelle sur ce sujet.
Mais je voulais justement citer un membre du Conseil constitutionnel qui, lui, s'est imposé un silence total, que j'ai trouvé gênant, c'est Lionel Jospin. Il y a bien des fois où on aurait aimé avoir l'avis de Lionel Jospin, mais un avis au sens d'expérience de quelqu'un qui a été Premier ministre. Oui, mais enfin, on ne l'a jamais entendu dans des moments importants, dans des moments graves, dire ce qu'il pensait de telle ou telle situation. Et je trouve que son avis aurait compté, il aurait été important, que bon nombre d'électeurs de gauche auraient aimé entendre. Il a décidé de disparaître du jour au lendemain. Et je crois qu'entre la disparition totale de Lionel Jospin et puis la candidature permanente des autres, il y aurait une position intermédiaire qui me paraît la bonne, c'est-à-dire renoncer définitivement à redevenir président, mais ne pas s'interdire de prendre la parole publiquement, de commenter. C'est des situations qu'on a connues avec d'anciens premiers ministres. Quand Michel Rocard s'exprimait sur la situation politique, c'était toujours passionnant parce qu'il avait une vision intellectuelle de la vie politique, il avait des choses à dire. Quand Pierre Mendès-France avant lui, parlait aussi de la situation politique sous la Ve République. On savait bien qu'il n'allait pas être candidat à l'élection présidentielle dans les années 70.
Non, il la contestait en plus.
Et en plus, il la contestait. Mais il lui arrivait d'intervenir dans le débat public. Et je pense que ce sont des paroles intéressantes. Ce serait dommage de s'en passer. En revanche, il faudrait une fois pour toutes régler cette question de ces spectres. En fait, il faudrait, je ne sais pas, interdire une fois qu'on a été président.
Juridiquement, c'est compliqué. Mais, bon.
Mais est-ce que justement la bonne façon de régler cette question, ça ne serait pas de maintenir le fait que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel, avec pourquoi pas l'idée de...
Avec le devoir de réserve qui l'accompagne.
Et le devoir de réserve, parce que, pour le coup, avoir des conseillers de cette envergure-là, on le voit bien avec Alain Juppé, qui a rejoint le Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, pourquoi pas les anciens chefs d'État, Patrice
Duhamel. Mais ça ne suffirait pas, parce qu'on a bien vu, Sarkozy l'a fait... D'autres l'ont fait. Ils peuvent décider de ne pas siéger et à partir de ce moment-là, de conserver ou de retrouver leur liberté de parole. Il y a autre chose par rapport aux exemples étrangers, américains, britanniques, Tony Blair, le chancelier allemand, etc., etc., ou espagnol. Et où l'usage, c'est pas la tradition, l'usage fait que ceux qui ont été battus, ils ne reviennent pas et ils n'essaient pas de revenir.
Même quand ils n'ont pas été élus. C'est-à-dire oui, que même absolument. Les candidats voilà. qui ne absolument. Deviennent jamais Premier
les
ministre...
Les candidats battus ne reviennent pas, voilà. C'est, il faudrait... en général, ils ont, je pensais à Tony Blair ou à Obama, ou au grand président américain, on leur donne des missions au nom de l'État, des grandes missions internationales, diplomatiques, ils jouent les médiateurs sur, dans les conflits, etc., etc. Giscard, il l'a un peu fait au moment du traité européen. Ah, après, il y a eu le référendum qui a été à 55% pour le non. Donc, c'était pas forcément le meilleur exemple.
Rocard l'a fait pour les pôles.
Oui.
Non, mais ça lui tenait à cœur.
Oui, voilà. Mais oui, mais là, Rocard n'a pas été président. Donc, on pourrait décider, mais on peut pas. C'est pas écrit dans la loi. On peut pas voter ça. Ça peut pas être. Que le statut des anciens présidents, qui n'existe pas, le statut entre guillemets, se pourrait être de leur confier de grandes missions d'intérêt général. Auquel cas. On ne peut pas leur interdire, mais auquel cas, ils ne seraient plus sur la scène politique.
Il faut leur trouver une occupation pour pas qu'ils s'ennuient ensuite, pour
mais
pas qu'ils dépriment.
Parce que
dans le livre que j'évoquais en début d'émission, les jours d'après, que vous avez signé avec Jacques Santamaria, donc il y a un certain nombre de portraits, pas seulement d'anciens présidents de la République, mais aussi d'anciens premiers ministres. On a parlé de Rocard, de Jospin, Chirac, dont vous évoquez une forme de déprime, hein, une fois qu'il quitte l'Élysée après
alors,
son deuxième mandat.
Il était déjà très malade, je ne sais pas, mais enfin, il était déjà très, très fatigué. Mais ça la déprime qui suit le départ du pouvoir, ça, c'est quelque chose de général. Et puis, le déni, moi, je me souviens quelques mois après le 10 mai 81, je parlais avec Giscard de ce qu'il ressentait, comment il avait ressenti la défaite le soir du 10 mai, et il m'a interrompu. Très gentiment, il m'a dit « Mais non, ça n'est pas une défaite, c'est une non-victoire. » J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Il y a une forme... Voilà, on n'accepte pas. Sarkozy, dès le lendemain matin de l'élection de Hollande, le lundi matin, il téléphonait à des journalistes, à des amis politiques, etc., pour leur dire « T'as vu comment j'ai remonté ? J'allais gagner 15 jours de plus et je gagnais. » Donc, ils considèrent qu'ils ont...
Tout en disant qu'il a abandonné la vie politique, hein, un peu de temps après. Voilà.
Oui, là, la première fois, il avait dit...
Alors moi, au risque de vous surprendre, je pense que quiconque... président ou pas président, peut, dans une circonstance qui est imprévisible, parce que la vie politique comme la vie est imprévisible, se représenter, avoir envie de reconquérir le pouvoir. Je ne vois pas du tout pourquoi il faudrait leur donner un rôle extérieur pour qu'ils ne reviennent jamais au pouvoir. Je les juge souvent assez pathétiques dans leur envie de retourner au pouvoir, mais sur le fond, je pense qu'ils ont parfaitement le droit d'avoir cette envie et parfois ils pourraient même avoir la légitimité. Je vais même aller
plus loin.
De
Gaulle l'a fait, hein.
De Gaulle
l'a fait.
Et quand aux États-Unis, ce que peuvent être les circonstances.
Il n'avait pas été battu, il avait démissionné en 1946. Ouais, c'est pas pareil. C'est il a dit je m'en vais.
Bah oui. Mais c'est le peuple qui décide. Et quand on a un personnage exceptionnel, dans des situations exceptionnelles, ça peut arriver. Et vous parlez des États-Unis, ils ont eu un personnage exceptionnel. À l'époque, il n'y avait pas de limitation du nombre de mandats. C'est Franklin Roosevelt qui est mort pendant son cinquième mandat. Il a vécu la crise, le New Deal, la Seconde Guerre mondiale. Il est mort pendant son cinquième mandat. Et après, et c'est une erreur, selon moi, qui a été faite par les institutions américaines ont changé. On a limité le nombre de mandats à deux successifs. Et je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, on voit comment ils l'ont payé. Si Obama avait pu se présenter une troisième fois, je ne suis pas sûre et certaine que Trump aurait été élu. Mais peut-être, on ne peut pas refaire l'histoire. Et je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, on empêche
Churchill
quelqu'un.
Aussi.
Peut-être Churchill. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir
Churchill,
une crise.
Churchill, lui, contrairement à De Gaulle, il avait été battu.
Moi, du moment que c'est le peuple qui décide, ça ne dérange pas que les gens se représentent. Et si le peuple veut quelqu'un pendant 3-4 fois parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, et ben pourquoi pas. J'ai toujours été contre la limitation du nombre de mandats.
Mais alors, poussons la réflexion un tout petit peu plus loin, Géraldine Mühlmann. Qui, parmi les anciens présidents français de la République, encore vivants, bien entendu, vous verriez capable d'assumer à nouveau cette charge présidentielle?
Je pense que comme maintenant on a des gens de plus en plus jeunes, on en aura beaucoup. Ce que je crois, c'est qu'il y a un rejet assez important dans l'opinion. Donc leur probabilité d'y arriver est limitée, mais elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle parce que la médiocrité, ce n'est pas le privilège des anciens présidents de la République. On n'a pas une classe politique qui excite beaucoup de monde en ce moment. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut arriver. Et tous les jeunes présidents qui, en plus, ne siègent pas au Conseil constitutionnel parce qu'ils ont envie de compter encore politiquement, et après tout, pourquoi pas, peuvent soit se prendre une veste, soit un jour y retourner. C'est la vie politique démocratique. Voilà, j'ai pas dit que j'allais voter pour eux. J'ai dit que c'est possible qu'ils se retrouvent à ces fonctions et je ne peux pas être hostile en principe à ce phénomène.
Le seul qui a pu être candidat, parce que l'exemple de Giscard, il n'a pas pu être candidat. Il y a Barre qui l'a été, etc. Il est Balladur. Mais le seul qui a pu l'être, qui était Sarkozy, objectivement, quand il a repris ce qui était à ce moment-là l'UMP et qu'il a transformé en républicain, beaucoup de gens pensaient, les sondages le disaient, il faisait des tournées triomphales en signant son livre dans les librairies, il y avait 1000-2000 personnes, c'était absolument incroyable, mais personne ne pensait qu'il serait presque humilié au premier tour d'une primaire comme il l'a été. Donc Géraldine...
Et parce qu'il faut rappeler, il est arrivé troisième derrière François Fillon et derrière Alain Juppé.
Avec 20% des voix, alors qu'il était au zénith dans les sondages de popularité.
Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, en revenant dans l'arène politique en 2014, Nicolas Sarkozy était sûr de lui, profondément convaincu qu'il ne ferait qu'une bouchée de ses concurrents. Déni de réalité ou phénomène de cours, Sarkozy n'a rien vu venir. Comme si le fait d'être passé à l'Élysée, non seulement ça vous donne la capacité d'appuyer sur le bouton nucléaire, mais comme si ça atténuait aussi peut-être votre capacité à analyser les situations politiques.
Oui, je pense qu'il y a une forme de déni. Alors, vous évoquez les entourages, etc. Ça, c'est un autre problème qui, à mon avis, joue beaucoup dans l'isolement. Je connais pas assez les États-Unis pour savoir si c'est la même chose à la Maison-Blanche, mais avec Trump, en tout cas, je crois que oui, de ce que je lis ou de ce que j'entends. Mais c'est-à-dire que non seulement vous êtes isolé physiquement parce que vous êtes dans un palais et vous considérez que vous êtes loin de tout, etc., etc., trop loin que vous n'entendez pas les bruits de la ville, ce que disait De Gaulle. Je n'entends pas les bruits de la ville. Voilà. Et simplement, vous avez un entourage, ça c'est la cour, et c'est la cour du monarque républicain qui ne vous dit pas la vérité. Alors ça va parfois à les extrêmes, c'est-à-dire on vous cache des mauvais sondages. Bon, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais vous êtes dans une espèce de déni. Même quand vous êtes président de la République, vous ne mesurez pas Macron. Une des raisons pour lesquelles, alors personne n'a vu venir les gilets jaunes, mais une des raisons pour lesquelles dans les premières semaines, il n'a pas bien mesuré ce que ça représentait. Entre le 17 novembre et le 10 décembre, en tout cas, hein, on sentait qu'il flottait, qu'il ne savait pas très bien comment répondre à ce qui se passait dans la rue. C'est parce qu'il y a des problèmes d'alerte. Voilà, les alertes ne fonctionnent pas. Sarkozy, quand il est revenu, tous ses entourages lui disaient « Mais tu vas gagner, mets les doigts dans le nez, tu vas les écrabouiller, tu vas prendre ta revanche et tu vas y arriver. » Voilà.
Sylvain Bourmeau, cette difficulté que semblent avoir les anciens présidents de la République à lâcher l'affaire une fois qu'ils ont quitté l'Élysée, est-ce que ça dit quelque chose de notre système politique ?
Oui, ça renvoie à cette dimension monarchique républicaine dont parlait à l'instant Patrice Duhamel, incontestablement. Mais il n'y a sans doute pas que ça, parce que ça vaut aussi pour des gens qui ont détenu du pouvoir autrement, à d'autres postes, on va commencer par les premiers ministres. Et puis bon, on pourrait élargir l'analyse à beaucoup de postes de pouvoir. Je pense que c'est la situation même du pouvoir qui... pas dans tous les cas. Encore une fois, on peut citer Jospin comme un contre-exemple. Donc il y a des gens qui apprennent ou qui d'ailleurs s'imposent une règle très stricte pour pouvoir décrocher, pour pouvoir finalement se sevrer de cette relation au pouvoir. Mais le cas général, c'est plutôt effectivement une addiction, quelque chose qu'il est difficile d'arrêter net du jour au lendemain, d'où cette déprime dont on parlait aussi tout à l'heure. Donc je crois que le problème est beaucoup plus général que simplement le cas des anciens présidents de la République. C'est vrai qu'il pose une question particulière dans le cas des anciens présidents de la République, vu la nature de nos institutions. Et je pense, et c'est là que je suis en désaccord total avec Géraldine Neumann sur, la non-limite du cumul des mandats, parce qu'au fond, c'est pas seulement le problème des présidents qui essayent de se représenter ad vitam aeternam, c'est aussi le problème des candidats qui essayent d'être élus ad vitam aeternam, parce qu'en fait, pendant très longtemps, et de ce point de vue, Macron est une un contre-exemple parfait, mais pendant très longtemps, c'est à l'ancienneté qu'on devenait président de la République. Je veux dire, François Hollande s'est présenté, il a compris très tôt l'importance de la présidentielle, 65, Jacques Chirac, pareil. Enfin, dans beaucoup de cas de figure, ils ont fini par y arriver, voilà, à l'ancienneté. Toute chose qui est strictement impossible désormais dans des régimes comme la Grande-Bretagne.
Faites confiance au peuple, ils ne veulent plus les gens une fois qu'ils ont gouverné.
La Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, etc., ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous êtes le candidat du camp qui perd une élection générale, ben vous pouvez pas être celui qui porte ce même camp l'élection générale suivante, c'est terminé.
Le seul contre-exemple en Europe, c'est Berlusconi.
Oui,
mais bon, c'est l'Italie, vrai. C'est un peu particulier.
Michael
Foot, Neil Kinnock, enfin tous ces gens
ont
perdu.
D'accord, mais 10 ans plus tard, on ne sait jamais.
Bon, voilà. Et je crois que ça a permis quand même dans ces pays un renouvellement plus régulier du personnel politique. Oui. En France, on est focalisé en plus sur l'élection présidentielle, donc il y a une personnalisation encore plus forte qu'ailleurs, et elle est accentuée par cette prime à l'ancienneté qui détruit au fond beaucoup de choses dans la politique professionnelle.
Peut-être faudrait-il relever l'âge minimum pour accéder à la présidence de la République, parce qu'on accède à l'Élysée aujourd'hui de plus en plus tôt en France. Si, je sais pas, on pouvait pas être président avant d'avoir l'âge de 60-65 ans, peut-être que le fait de se représenter plus tard ne se poserait plus, Géraldine Mullmann. Mais j'essaie de trouver des idées de réforme. C'est qu'il y a une réforme constitutionnelle à venir.
Je crois qu'il faut banaliser.
Ça serait pas très constitutionnel.
Il faut banaliser absolument ces postes. Parce que c'est ça la démocratie.
Mais dans ce cas-là, il faut supprimer la présidence de la République, parce que ça ne peut pas être banal.
Non, comme dit Claude Lefort, le pouvoir n'est pas là, le pouvoir il est dans le peuple. L'État, ça existe, le président occupe une fonction, mais le fond du pouvoir, le vrai lieu du pouvoir en démocratie, c'est le peuple. Avec ce que ça a d'ailleurs de très difficile à cerner, puisque c'est quantitatif, c'est des votes agglutinés.
Bon, c'est parfois contradictoire.
Mais c'est comme ça, ça fait partie de l'énigme démocratique. Ce qui veut dire, d'ailleurs pour moi la seule fois où François Hollande a une parole philosophique profonde sur la démocratie, c'est la fois où pendant les journées du patrimoine, il est sorti de l'Élysée et il a dit bah oui, il y a la queue devant l'Élysée, c'est normal, c'est chez eux ici. Je me suis dit, c'est une parole lefortienne qu'il a eue. Effectivement, c'est pas chez lui, c'est chez nous, là-bas. Donc voilà. Mais il faut banaliser encore plus. Ça veut dire qu'une fois qu'ils n'ont plus le pouvoir, d'abord, il faut qu'ils arrêtent de penser à leur bouton nucléaire, parce que ça, quand même, ça m'a affolé, ce que vous avez dit, Patrice Duhamel.
C'est la puissance que ça représente.
Et s'ils ont envie d'occuper des responsabilités, moi, j'ai rien contre. Mais je pense que, d'abord, il faudrait peut-être qu'ils acceptent de temps en temps un poste de ministre. On n'a toujours pas eu un président de la République qui est devenu ministre. On a eu un premier ministre qui est devenu ministre.
Valéry Giscard d'Estaing est redevenu député.
Jean-Marc Ayrault.
Devenu député.
Non, mais il aurait pu.
Il a été en tout cas conseiller régional, président de conseil régional. Façon de redémarrer.
C'est une banalisation.
Et Mitterrand,
en 93,
l'a fait tester par quelqu'un dont vous ne devineriez jamais l'identité. Enfin, je ne crois pas.
Il a fait tester quoi ?
C'était une perversité extraordinaire. Il savait très bien qu'il nommerait Balladur, mais il l'avait fait tester par Bernard Tapie. Vous imaginez le dialogue Giscard-Tapie. Vous fermez les yeux et vous imaginez ce que ça a pu donner.
Ah oui, ça devait être quelque chose. Pour conclure, Patrice Duhamel, est-ce que dans la galerie de portraits de ceux et celles qui ont exercé le pouvoir et qui l'ont quitté, il y en a pour qui ça a été vécu non pas comme un arrachement, mais comme une libération, de se dire enfin ça y est, on n'y retournera plus, parce que exercer le pouvoir, c'est quelque chose de tellement terrible qu'on est content que cette expérience soit terminée.
Parmi ceux sous la Ve République qui était, en quittant l'Élysée, encore dans l'âge de, avec la capacité physique et politique et physique de revenir, non, il n'y en a pas. Parce que Mitterrand, quand il est parti, voilà.
Et du côté des anciens premiers ministres? Non plus.
Les anciens premiers ministres, oui, vous avez cité Lionel Jospin, effectivement, c'est un bon exemple, et il n'y en a pas beaucoup.
Mais c'est pas n'importe quel premier ministre, en plus, c'est un premier ministre de cohabitation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait le pouvoir, dans une large mesure, contrairement à des collaborateurs de président de la République.
Eh ben merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc je renvoie à vos jours d'après, Patrice Duhamel, Jacques Santamaria, publié aux éditions de l'Observatoire et bientôt en version poche, comme le livre de François Hollande qui lui permet de faire cette tournée des médias actuellement. Merci Géraldine Mullmann et Sylvain Bourmont. On se retrouve bientôt pour un prochain Club des idées. Et cette émission, vous pouvez la réécouter comme chaque fois sur notre site internet franceculture.fr, la page du grain à moudre. Merci à l'équipe du grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo et Cyril Marchand.
émission réalisée par Émilie Vallat, avec à la prise de son Mathieu Tourin, Philippe Mercher et Philippe Thibault.